Alors si vous êtes là pour la première fois, sachez que vous prenez un train en marche. On poursuit une formation sur 12 rencontres qui s'appelle La Grande Histoire et ça vient d'un manuel que voici. Et donc la plupart des membres ont participé un week-end et ont reçu ce livret et donc on le parcourt petit à petit. Alors on est en plein milieu en fait des 12 sessions, on est à la 6e session. Alors vous en avez raté quelques-unes, on va faire un petit récap très rapidement. Si ça a planté, l'ordinateur nous fait des siennes ce matin. Donc je vais attendre. Bon bref, si vous avez vos manuels, on va reparcourir ça rapidement. Mais on a vu la toute première session, si vous vous souvenez, c'est la session 0. Alors elle n'est pas dans ce manuel, mais elle est dans l'ancien manuel. C'était sur la fiabilité de la Bible. Et donc c'était la session 0, moi j'ai appelée session 0, avec John Glass. Donc il a fait un message dessus. Ensuite on a fait la session 1, qui était le terme création. Et donc dans le terme création, on a vu toutes les deux premiers chapitres de la Genèse. Ensuite, le deuxième thème, c'était indépendance. L'homme a voulu prendre son indépendance, donc ça c'est le chapitre 3, devenir autonome, prendre lui-même ses décisions, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chute. Donc ça c'est le deuxième chapitre. 3, sacrifice. Et donc là, on est allé dans Genèse 12, 17, 22, c'était Abraham. Et donc Abraham, c'est le début d'une alliance avec l'homme et Dieu. Et donc, premier sacrifice, enfin pas premier, parce que c'est Dieu qui avait fait le premier. Et ensuite, on voit ce sacrifice et que Dieu pourvoit avec un bélier. Ensuite, on a vu le chapitre 4, incapacité, et là on va face à l'Exode, face à la loi, donc le thermomètre qui nous indique que l'on est malade, mais qui ne peut pas faire grand-chose sur la maladie, et donc là encore une fois, un constat de notre incapacité. Ésaïe 53 et Jérémie 31 étaient traités en même temps que Exode 20, et donc Ésaïe 53 où on voit l'amorce de la venue du Messie, d'un sauveur qui va venir prendre sur lui nos fautes, notre péché. Et donc Jérémie 31 qui lui annonce la nouvelle alliance, donc une alliance qui va venir avec ce Messie. Mais donc ça c'est prophétique, ce sont deux messages prophétiques. Et on arrive à la session 5 qui a été intitulée Sauveur et on assiste à la naissance de Jésus, donc Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Et on voit une naissance miraculeuse. Et donc la prémisse de ce que Dieu va faire au travers du Messie. Et là, eh bien, on arrive à la session 6. Donc si vous avez vos manuels, c'est la page 30. Donc ici. Et donc on va écouter le texte. Alors avant, normalement, devrait s'afficher le résumé, mais ça ne fonctionne pas apparemment. Donc je vais vous juste lire ce qui est dans le manuel, le résumé de la session 5. Jésus est différent de tous, il naît d'une vierge, il est présenté comme le sauveur, celui qui accomplira les promesses annoncées dans la première partie de la Bible. L'annonce est faite aux petits de ce monde. Et ça nous amène à notre aujourd'hui, 6e session, où on va découvrir la puissance de Jésus. Voilà, le résumé est là, c'est l'objectif de la session numéro 6. Et donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur le chapitre 2 de l'évangile de Jean, et on va écouter maintenant, donc la bande-son, les 12 premiers versets. Et donc vous pouvez suivre soit dans vos manuels, soit sur l'écran. Ça va arriver. On a la foi. Est-ce que je le lis ?
Noce à Cana en Galilée. la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit :
« Ils n'ont plus de vin. »
Jésus lui répondit :
« Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. »
Sa mère dit au serviteur :
« Faites tout ce qu'il vous dira. »
Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit :
« Remplissez d'eau ces jarres. »
Et ils les remplirent jusqu'au bord.
« Puisez maintenant et apportez-en à l'organisateur du repas. »
Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit :
« Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. »
Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours.
Voilà.
La Pâque juive était proche.
On s'arrête et on reprendra la lecture juste après. En fait, ils ont pris une grande portion du chapitre 2, mais les questions ont été coupées en deux. Et c'est vrai que c'est deux histoires qui sont différentes, qui vont se rejoindre à un moment donné, mais quand même, on a vraiment deux récits un petit peu différent. Donc je voulais traiter déjà le premier parce qu'il était important d'avancer dans notre série. Alors, première question qui est dans le manuel, que pensez-vous de ce premier miracle de Jésus ? Est-ce que vous avez été surpris à la lecture de ce texte ? Qu'est-ce qui vous surprend ? Vous avez entendu le récit comme moi, il est court. Qu'est-ce qui est surprenant ? Premier miracle de Jésus. Il guérit personne. Est-ce que le miracle en soi vous semble extra... utile, voilà. On pourrait dire, est-ce qu'il est vraiment utile ? Ça sauve personne ? Il est festif. Alors quand je dis ça sauve personne, à vrai dire, si. Ça sauve de la honte. Vous allez voir pourquoi. Si on regarde de près, le premier miracle de Jésus, j'ai pris une image ici d'un mariage, c'est d'ailleurs The Chosen, je puise mes images là-dedans, maintenant on a toute une base de données d'images qui sont super intéressantes. Alors, de prime abord, quand on écoute ou qu'on lit le miracle de Jésus, on se dit, mais pourquoi faire transformer de l'eau en vin ? Franchement, il y a plus urgent comme situation. Il y a plusieurs gens. Effectivement, c'est une situation assez banale, matérielle. On manque de vin à une fête. Ça ne paraît pas essentiel de mettre du vin. Enfin, en tout cas, dans mon mariage, si on avait manqué de vin, tant pis, ils s'arrêteront de boire, c'est tout. Alors que là, dans la culture du Proche-Orient, manquer de vin ou même de quoi que ce soit d'autre pendant un mariage, c'était une honte publique terrible. Pendant des années, tout le village, parce que ça durait une semaine, les festivités. Enfin, ça pouvait durer une semaine, mais au moins 2-3 jours, jusqu'à une semaine, et c'est tout le village qui était invité. Donc imaginez, il manque quelque chose, et là, on aurait pu se prendre des petits retours et du sarcasme de la part des gens du village. Parce que en fait, c'était un petit village et tout se disait et ça pouvait durer longtemps. La réputation était installée et on aurait pu entendre « Oh, tu te rends compte, ils n'ont même pas été capables d'assumer l'hospitalité de la famille et des amis du mariage de David et Sarah. » Parce que en fait, les mariages juifs, on doit assumer. La dot fait partie encore aujourd'hui dans certaines cultures et c'est hyper important. Donc c'est le mariage, c'était le mari et la famille du mari qui étaient censés l'assumer. Et quand il manquait quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas assumé leur rôle. Et figurez-vous que ça pouvait aller loin. C'est que la famille de la mariée pouvait se retourner et même faire un procès. Et là, ça allait loin. En fait, c'était une sorte de contrat, un mariage. Et le fait de manquer de vin, c'est que vous n'avez pas respecté le contrat. Et donc, juridiquement, ils pouvaient leur mettre un procès. Je ne sais pas si ça se faisait concrètement. Ça a dû avoir lieu parce que c'était une réalité que les historiens relèvent. Et là, je me suis dit, waouh, quand même. Donc, c'était la honte. La honte que Jésus va éviter, finalement, à ces gens. Donc, manquer de vin, c'était grave. Quelque part, ça avait des conséquences dramatiques. Quand nous, on lit le récit, c'est juste du vin, non, ça pouvait avoir des conséquences assez lourdes. Alors, bien que ce soit quand même pas la chose essentielle à relever de ce miracle, moi, je soulève que, ici, Jésus s'intéresse à nous. En fait, il s'intéresse aux petits détails de notre vie quotidienne. Un manquer de vin, c'est pas essentiel, mais quand même, ça participe à la fête, et là il enlève la honte d'une famille quand même, donc qui n'est pas rien. Jésus prend plaisir à nous sortir de situations embarrassantes et à manifester sa gloire là où on ne l'attend pas forcément. Parce que c'est pas là où on s'attendrait à voir Jésus, et pourtant c'est là où il vient. Ça c'est la première chose étonnante, j'en ai relevé quatre en tout. La deuxième, c'est qu'il agit discrètement. Vous avez dû remarquer dans le texte que les serveurs, ceux qui sont allés puiser l'eau, étaient au courant, mais l'organisateur de la fête, le big boss, celui qu'on payait pour l'organisation, il n'était même pas au courant. Ça veut dire que ça a été fait discrètement. Jésus leur dit, allez remplir ces cruches d'eau. Mais même eux, ils ne savaient pas. Ils disent, attends, pourquoi tu nous fais remplir d'eau ? Il obéit à ce que la maman juive, donc Marie, leur a dit, allez, obéissez à ce qu'il vous dit. Vous voyez, donc, quelque part, elle devait faire peut-être partie des organisateurs. En tout cas, elle était en seconde main, parce qu'il y avait un organisateur officiel. Mais lui n'était pas au courant. Et donc, Jésus va agir à ce moment-là. Pourquoi je dis qu'il intervient de manière discrète ? Eh bien, Cana. Aujourd'hui, c'est une petite ville qui existe. Elle n'a jamais été fouillée, mais c'est tout petit. En fait, elle n'existe plus vraiment. Mais on sait qu'il y a un nom qui porte cette ville. C'est une douzaine de kilomètres de Nazareth. Donc vous voyez, c'est dans la banlieue de Jérusalem. C'est pas très loin, mais c'est la province. Donc c'est un petit village. Autrement dit, c'est insignifiant. On connaît Paris, on connaît Genève, mais Jussy, un peu moins. Vous voyez, toutes les petites banlieues annexes, on connaît peu en fait. À part s'il y a un grand vin dans cette ville, où ça, effectivement, les grands crus en connaissent, le Saint-Émilion, c'est un tout petit village. Vous allez à Meursault, en Bourgogne, c'est des grands crus, donc on connaît le village. Nuit-Saint-Georges, hein, vous connaissez ce genre d'appellation. Mais ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier. Mais honnêtement, Cana, personne ne connaissait. Donc c'était un petit village ordinaire, au milieu d'un événement assez ordinaire, un mariage avec des gens ordinaires, et puis un miracle extraordinaire, mais en fait pas très visible, assez imperceptible. Et c'est vraiment si discret que l'organisateur de la fête, il découvre avec étonnement qu'il y a du vin et qu'en plus il est bon. Donc vous voyez, il est étonné. Il est étonné. C'est d'autant plus étonnant que moi, je me suis mis à la place de Dieu. Oula, ça, c'est pas bon. Faut éviter, hein. Mais quand même, je me suis mis à la place de Jésus. Je me suis dit, OK, si tu avais été le Messie, si tu avais voulu te faire connaître, humainement parlant, naturellement, j'aurais fait un truc éclatant. Pour, l'inauguration, quoi. Hein, on veut marquer les esprits, on veut que ce soit visible. Et c'est ce qu'on fait, on fait un feu d'artifice quand on veut attirer. Vous voyez, on fait quelque chose d'éclatant, on aurait fait un miracle extraordinaire. Ben là, il le fait déjà très discrètement, et puis c'est pas si fantastique. Regardez Moïse, premier miracle qu'il fait, c'est pas un petit truc, hein. Premier miracle, il embarque le peuple avec lui et il ouvre la mer en deux. Alors le tout premier, c'est même pas celui-là. C'est lequel ? Alors, il y a le bâton avec les serpents, et il y a eu après les plaies. On va y revenir à la plaie, la première plaie, parce qu'il y a vraiment un lien avec notre texte. Mais en tout cas, Josué, Élisée, Moïse, ils ouvrent la mer, ou ils ouvrent le Jourdain en deux. Donc, vous voyez, c'est des choses visibles et qui sont de public, quelque part. Et là, il le fait de manière privée, discrète, en catimini quelque part. Donc, il y a un autre objectif, probablement, à ce signe, mais ce n'est même pas probable, c'est sûr. En tout cas, il avait déjà fait ça. Qu'est-ce que Dieu fait ? En fait, il renverse nos valeurs. Je l'ai dit pendant la fête de Noël la semaine dernière. Quel était le premier renversement de valeurs ? La naissance. La naissance. On s'attendrait à ce que Jésus naisse dans un palais, que ce soit en grande pompe, et qu'il se révèle à des gens influents. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Il renverse nos valeurs. Et il va se révéler à des gens qui ne sont pas crédibles, à des bergers qui sont en marge de la société, pas du tout crédibles socialement. Et donc, il vient là, il n'est pas dans un palais royal, il va naître et on va le déposer dans un bac à foin, avec de la bave, de la poussière. Vous imaginez, c'est pas digne. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait. Il renverse nos valeurs. Nous, on pense à des trucs extraordinaires. Ben lui, il agit de manière invisible, mais discrète, mais il le fait. Troisième élément que je relève ici de surprenant, c'est la quantité de vin. C'est anormal. Alors là, j'avais une petite vidéo derrière, mais j'ai juste mis une photo. Elle y est, donc j'ai mis le lien dans ceux qui auront les notes. Vous pourrez aller la visualiser. On a retrouvé une jarre. Vous avez remarqué que la jarre, c'est une jarre de pierre, hein, pas une jarre de terre. Important parce que les Juifs, pour l'eau qui allait servir à la purification, donc c'était pour le bain rituel, ils se lavaient les mains, les pieds, enfin bref, ils l'utilisaient vraiment pour se purifier. D'accord ? Et donc, pour justement avoir de l'eau la plus pure possible, ils prenaient des grands réservoirs en pierre et non pas en terre cuite comme la plupart du temps. Et donc, on a retrouvé ici, sur cette image, voilà une jarre où on déposait. Et à l'intérieur, ensuite, on prenait de ce récipient-là, on remplissait d'autres jarres qui étaient plus petites. D'accord ? Et vous allez comprendre pourquoi. Ici, dans le texte, vous avez vu, j'ai pris deux versions, la seconde 21, celle qu'on a lue, et qui a traduit l'expression ici. Donc, les jarres, il y avait six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Okay ? Mais l'original, et si vous avez une version comme moi, dans la colombe, vous allez trouver ça. Donc, on voit le même début, mais contenant chacun deux ou trois mesures. Donc, dans chaque jarre, il y avait deux ou trois mesures. Donc, la question, c'est, ok, pourquoi ils ont traduit centaines de litres alors que c'est marqué deux ou trois mesures ? Donc, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi une mesure ? Quand on aura ici le sens et la quantité de la mesure, eh bien, on pourra remonter et savoir exactement combien il y avait de litres, combien Jésus a transformé. Alors, un petit calcul. En fait, le mot, c'est « maîtresse ». Et la plupart des commentaires, je veux dire la grande majorité, disent qu'il s'agit donc d'une correspondance au « bath », au « bat » en hébreu. Et ça fait 39 litres. Donc, vous voyez, ça fait deux jerricanes en gros, 39 litres. Et donc, s'il y avait deux mesures, ça représente 78. Et lui, dans le texte, il dit entre deux et trois mesures. Donc, on peut dire soit entre 78 au minimum et au maximum. Alors, j'ai fait un petit calcul. Sur six jarres, ça représente 468 litres de vin. Autrement dit, 624 bouteilles. Je ne sais pas combien vous avez d'invités dans vos mariages. Oh, une petite centaine, ça fait 6 bouteilles par personne, ça c'est au minimum. Si on compte 3, donc au maximum, ça fait 933 bouteilles. Oh, y a de quoi faire là. Alors ça nous surprend, effectivement, c'est l'abondance. Et moi je ne dirais pas l'abondance, la surabondance. Et c'est fait exprès. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Cette quantité énorme de vin. Alors, c'était sur plusieurs jours, je vous le rappelle, une semaine, et on invitait tout le village. C'est pas simplement la famille, c'est beaucoup plus large. Donc, vous voyez que Jésus, il aime faire la fête. Moi, j'aime, c'est un de mes passages préférés à cause de ça. Et mieux, c'est la suite, en fait. Ce qui est surprenant, c'est pas simplement la quantité. Alors, attention, hein, c'est pas une beuverie, là, hein. Jésus n'est pas en train de créer une beuverie. Il y a un signe derrière, mais on va regarder ce que c'est que ce signe, cette générosité. Donc ça, c'est la petite vidéo, mais on ne va pas la regarder maintenant, à moins qu'elle se lance. Non, en plus, c'est la pub. La qualité du vin est anormale. La qualité du vin est anormale. C'est vraiment l'expression qui est relevée dans le texte. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. En fait, voilà, une fois qu'on a passé le début de la soirée, on mettait généralement du vin pour c'était pour accompagner. De toute façon, les gens ils étaient un petit peu éméchés et donc ils ressentaient plus le goût. Donc ça servait pas à grand chose de mettre du bon vin. Et là, c'est du très bon vin. L'organisateur de la fête, il goûte, il dit mais non, il est excellent ce vin. C'est pas la piquette qu'on sert en fin de cérémonie, vous voyez. Non, là c'était vraiment du bon vin. Et donc, il y a une qualité qui est digne d'un grand vin. Moi, je le comparerais à de la petite Arvine ou à du vieux pape du Valais. Hein ? Vous connaissez le vieux pape du Valais ? C'est le vin le plus prestigieux de Suisse, quand même. Hein ? Et la petite Arvine, c'est les vins les plus connus. On dirait un château Pétrus pour les Français. Donc, vous voyez, c'est le high level. Et là, c'est ce que Jésus cherche et transforme. Et là, je me dis, waouh ! Là, il y a quand même quelque chose. Jésus ne transforme pas de l'eau en piquette. Il transforme de l'eau en grand vin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus, il aime les bonnes choses, il aime l'excellence et la qualité. C'est ce qui a fait la réputation de la Suisse jusqu'ici. La réforme, l'excellence, la qualité, c'est deux valeurs que porte notre Dieu. Il est à la fois généreux sur la quantité, donc gracieux, à la grâce, c'est un cadeau, on ne mérite pas, c'est offert, et abondant, surabondant. Et en même temps, il aime le beau, le bon et le parfait. Parce qu'il est comme ça, il est beau, il est bon et il est parfait. On a dans les psaumes tous ces qualificatifs. Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est parfait. Vous les avez ces définitions, c'est l'identité. Notre Dieu, il est miséricordieux, il est généreux, il est gracieux. Ça, c'est le qualificatif de notre Dieu. Donc la quantité et la qualité sont deux valeurs qui reflètent vraiment sa personne. Et on soulève au passage quand même, c'est que c'est quand même pas un petit miracle. Hein. Transformer de l'eau en vin, essayez. Et en grand vin. Parce que balancer un peu de vinaigre dans de l'eau, ça peut faire l'affaire. Hein ? Un peu de colorant, allez. Non, 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 là c'est du grand vin. Donc toute la vinification n'a pas été faite. Ici, il crée quelque chose de vieux en fait, du vieux vin. Un vin de qualité, c'est un vin qui a vieilli, qui a maturé au soleil, qui a été exposé, vous voyez, à une vinification. Donc c'est pas n'importe quoi, ça a été dans des jarres, ça a été dans des caves, ça a pris du temps. Lui, vous voyez, tout ça, il l'accélère et il transforme de l'eau en vin. Donc, c'est un vrai miracle. Donc, si on est capable de transformer de l'eau en un vin de grande qualité, ça veut dire qu'il a une capacité d'être créateur. Parce que là, il crée quelque chose à partir de rien. Pas parti d'une base, d'un mauvais vin, il l'a transformé en bon vin. Non, non, c'est de l'eau. Donc, là, les molécules ne sont plus les mêmes. Donc, vous voyez, Jésus, ici, nous montre qu'il est créateur. Et donc, on le voit, et c'est ce qu'on devrait découvrir, en tout cas lorsqu'on lit ce texte. Et c'est la chose à laquelle on veut faire arriver nos auditeurs. Je vous rappelle qu'on est dans un exercice ici, une formation, et que nous, on pose juste les questions. Donc là, je vous aide dans la découverte, mais c'est le but, c'est de découvrir qui est Jésus. C'est le but de la leçon aujourd'hui. Deuxième question qui nous est posée, que représentent les jarres destinées à la purification des Juifs ? C'est important, ce petit truc. Ce n'est pas juste des jarres. C'est des jarres qui servent à la purification. Okay ? Qu'est-ce que représente le vin ? Et la troisième question, voyez-vous un lien avec le texte de Jérémie 31 qui parle d'une nouvelle alliance ? Donc tout cela, c'est des textes qu'on a déjà vus normalement. Et donc, on y fait référence. Donc on va y revenir régulièrement. Alors, qu'est-ce que symbolisent les jarres de vin ici ? À votre avis ? J'entends pas ? Oui. Qu'est-ce qui symbolise ? Les rites, exactement. L'ancien système religieux juif. En fait, c'était basé sur quoi ? Sur des rituels et des cérémonies pour se purifier du péché. Donc là, il y a un symbole. Jésus utilise la jarre avec l'eau qui sert à la purification dans ce sens-là. Et on l'a lu, depuis Exode 20 et depuis que Dieu a donné la loi à Moïse, le peuple y devait, et ça c'est tout le livre de l'Exode et tous les Lévitiques, en fait, il devait se purifier régulièrement pour s'approcher de Dieu. Et donc, il y avait la purification avec l'eau, et puis après, il y avait aussi les sacrifices. Et donc, ces jarres-là rappellent que l'homme, eh ben, il ne peut pas se purifier lui-même. Hein ? Contrairement à ce que nous, on peut faire aujourd'hui, eux, ils étaient obligés de passer par des intermédiaires. Donc, il y avait l'eau, mais après, il y avait aussi le prêtre, il y avait aussi les sacrifices. Donc, vous voyez, il y avait toujours quelqu'un qui était quelque part un intermédiaire. Mais on a vu aussi que cette loi, la loi, elle, est imparfaite, mais le système était provisoire. Il était imparfait parce qu'il devait se renouveler chaque fois. Et en fait, ce régime-là, il préfigurait un autre régime, donc une nouvelle alliance qui, elle, va laver abondamment et définitivement les pécheurs en les transformant de l'intérieur. Et ils vont transformer le cœur de pierre. Et c'est dans des jarres de pierre, il va transformer ce cœur de pierre en cœur de chair. Vous voyez, mais il y a énormément ici de parallèles à faire. Hein. Et vous savez, on n'est pas au bout des parallèles. Le vin, qu'est-ce que ça représente ? Donc là, on a vu les jarres. Qu'est-ce que représente le vin dans la Bible ? La fête. Ça représente la fête, la joie. Hein ? Il dit qu'on peut prendre du vin et que ça égaye le cœur. Dans les psaumes, vous le lisez, ou dans les proverbes. Donc le vin, ça représente la joie, la fête, la bénédiction de Dieu. On le voit dans les prophètes. Alors ça, il faudrait lire l'Ancien Testament. Mais les prophètes parlent souvent de vin. Ça fait partie de la fête des noces et donc de la grâce. Et donc, en transformant l'eau de la purification en vin, Jésus, il annonce que l'ancienne alliance de la loi va céder la place à une nouvelle alliance, celle de la grâce, d'accord ? Une alliance qui va être généreuse en quantité, la grâce, elle est surabondante, voyez ? Donc il passe de quelque chose de dur, la pierre, en quelque chose de gracieux, et c'est le vin de joyeux. C'était l'annonce de la mort quand même, hein ? Dans l'ancienne alliance, la loi, alors que la grâce annonce la vie, voyez ? Et donc le vin. Donc on passe d'un régime de loi à un régime de grâce. Moïse, il va commencer son ministère, et là je fais un parallèle ici, hein, parce qu'il semble assez évident, entre la première plaie que Dieu envoie par Moïse aux Égyptiens et le premier miracle de Jésus. Il y a un parallèle ici, vous l'avez probablement remarqué. Quel est le premier miracle, la première plaie que Dieu envoie aux Égyptiens au travers de Moïse? Le fleuve du Nil est transformé. Donc l'eau du Nil, qui était l'eau qui était censée être l'eau de la vie, va être transformée en sang, en mort quelque part. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'eau qui se transforme en rouge, mais ce n'est pas la fête, hein, c'est la mort ici. Donc ça, c'est un signe de jugement et de mort vis-à-vis de l'Égypte. Ce n'était pas destiné sur Israël, mais bien sur l'Égypte. Et de son côté, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence son ministère en changeant lui aussi de l'eau en un liquide rouge, mais là, ce n'est pas du sang, c'est du vin. C'est un signe de grâce, de joie et de vie nouvelle, pardon, qui va être offerte aux hommes. On n'est encore pas au sacrifice de Jésus ici, mais vous voyez, il annonce quelque chose, une alliance nouvelle qui va être plus grande. Donc avec Moïse, l'eau vitale, elle devient imbuvable, tout s'assombrit. Avec Jésus, une eau ordinaire devient le meilleur vin et tout s'illumine. Donc on passe des ténèbres à la lumière. Moïse inaugure l'ancienne alliance sous le signe des plaies et de la sortie d'Égypte. Jésus inaugure la nouvelle alliance sous le signe d'un festin de noces et d'une joie surabondante. Donc il y a vraiment ce parallèle ici. Alors est-ce qu'il y a un lien avec Jérémie 31 ? Ben, évidemment. Quand il dit « Voici que des jours viennent, dit l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. En fait, le vin ici représente bien la nouvelle alliance dans le sang de Christ, qui va apporter la vraie purification et la joie du salut. Et donc, ici, on peut dire que Cana signale que ce nouveau temps commence avec Jésus, d'où le titre de cette session, hein, inauguration, c'est un commencement, une inauguration, et que la quantité et la qualité, elles soulignent la supériorité de la nouvelle alliance, et elles montrent qu'elle surpasse quelque part l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'était qu'une ombre des choses à venir, une représentation imparfaite et momentanée qui pointait sur une alliance messianique qui serait non seulement meilleure, mais aussi durable et éternelle. Quand l'Esprit Saint va venir à l'intérieur de nos cœurs, les amis, et s'il l'est, il ne l'est pas pour 5 minutes, il ne l'est pas pour un temps. La Bible dit qu'il l'est éternellement avec nous. Et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Et ça, c'est indépendant de notre obéissance. C'est Jésus qui fait le sacrifice, c'est Jésus qui obéit à notre place, c'est Jésus qui nous envoie le Saint-Esprit, c'est Jésus qui scelle le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus qui nous promet une vie éternelle et qui nous promet que l'Esprit sera éternellement avec nous. Donc vous ne pouvez pas le perdre, parce que ça ne dépend pas de vous. Vous voyez la générosité de la grâce ? Dieu offre, il scelle, il donne tout. Et donc, on peut être réjoui. Alors là, je vais plus loin que le texte, hein, mais c'était une petite assurance complémentaire pour vous. Troisième question. Que peut-on apprendre de la foi de Marie au verset 5 ? Vous avez vu le texte ? On est un peu embarrassé quand on voit Jésus comme il répond à sa mère. Hein ? Vous n'avez pas été un peu... Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ? Oh, je suis ta mère, là. Comment tu causes ? Là, il y a une petite transition qui se passe. Claire. Jusque-là, elle a peut-être considéré comme son fils. Maintenant, c'est considère-moi comme le Messie. Ça change. J'étais ton fils, mais je suis aussi le Messie. Maintenant, tu vas me parler comme ça. Elle ne moufte pas, hein. Elle ne se rebelle pas. Si on regarde bien Marie, elle obéit. Faites ce qu'il vous le dit. Faites ce qu'il vous dites. C'est-à-dire qu'elle avait encore un peu les commandes, hein. On voit qu'il y a un organisateur de la fête, mais on sent qu'il y a Marie là qui est derrière et qui se dit « Oh !» Hein, on connaît un petit peu les mamans juives, j'en connais. C'est un peu omniprésent dans les mariages. Hein, les belles-mères, hein, vous voyez, ils ont leur mot à dire, les parents. Et là, Marie, elle dit rien. Faites ce qu'il vous le dira. Ça veut dire que on l'entendait, on l'écoutait, Marie. Elle avait une influence, forcément. En tant que mère juive, c'est un mariage... Elle avait du poids, mais elle dit aux autres, écoutez, faites ce qu'il vous dit. C'est-à-dire, j'avais peut-être les rênes, mais là, maintenant, c'est lui le boss. Et elle connaissait Jésus. Elle ne lui demande pas d'explication, d'ailleurs. Hein. Elle dit, lui, il a la solution, je suis sûr qu'il va trouver une solution. Elle délègue. Donc, vous voyez, elle se soumet, Marie. Ici, c'est quand même... Vous voyez, on n'a pas grand-chose sur Marie dans la Bible, mais là, on voit une femme soumise, une femme humble, et qui se met derrière Jésus. Hein. Elle le met en avant, elle ne se place pas devant lui. Vous voyez, donc, elle n'est pas du tout au même rang. Absolument pas. Elle se soumet à Jésus. Et elle exerce sa foi. Hein. En fait, elle a côtoyé Jésus pendant 30 ans, elle sait d'expérience qu'il fait toujours ce qui est juste. Donc là, elle délègue et elle dit « Ok, écoutez mon fils ». Ce qu'il va faire, ça sera bien. Ça sera parfait, en fait. Et donc, elle s'efface pour le mettre au centre. Donc, vous voyez, on a quand même ici des éléments supplémentaires à mettre au dossier de l'imperfection de Marie. Hein, parce qu'elle se soumet, parce qu'elle est humble. Ça, on l'avait déjà vu en Luc. Et là, dans Jean 2, encore une manifestation où Marie est présente et où on voit, quelque part, qu'elle laisse la place à Jésus. Il y a une transition ici qui se passe. Alors, quatrième et dernière question par rapport au texte qu'on vient de lire, et peut-être qu'on va s'arrêter là, je ne sais pas si l'heure est bien, ou sinon on continue, c'est comme vous voulez, si vous avez du temps ou pas. Pourquoi celui qui est le sauveur change-t-il de l'eau en vin pendant un mariage ? Qu'annonce-t-il à travers ce miracle ? Et en quoi cela nous concerne-t-il ? Est-ce que vous vous sentez concerné honnêtement quand vous lisez ce texte ? Vous avez déjà fait le pont avec votre situation personnelle ? Hein, c'est rare, quand on lit le miracle, je dis « Oh, c'est génial !» et tout. Mais nous, finalement, là, il nous pose la question. Donc vous voyez, cette petite formation, quelque part, ça nous remet en question à nous. Ah oui, peut-être que je devrais m'y intéresser davantage à ce texte. Et moi, j'ai découvert plein de trucs en regardant de près le texte, et je trouve que c'est vachement utile, finalement, ce texte-là. En fait, on se souvient, avec un mariage, que le mariage, eh bien, c'est un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Depuis toujours, depuis Adam et Ève. Quelle est la première chose que Dieu fait ? Il scelle un mariage entre Adam et Ève. Première chose, il est, et on peut dire que c'est le temple, hein, là où Dieu est présent, c'est le temple. Et donc, dans le jardin d'Éden, Dieu est là. Donc, c'est leur temple à eux. Ok ? C'est pas un bâtiment. Non, non, c'est le temple. Là où Dieu est présent, c'est un temple. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il symbolise la relation qu'il y a avec eux, et donc le mariage. Ici, quand il commence son ministère dans un mariage, c'est comme s'il affirmait « Je viens restaurer la communion que le péché a détruite dans le jardin. » Parce que souvenez-vous, l'homme et la femme ont cherché leur indépendance, et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu s'est retiré, l'homme a été écarté du jardin, et Dieu l'empêche aujourd'hui de revenir. Et là, il avait amorcé la solution. Et elle se dessine petit à petit. Et là, il vient inaugurer justement ce démarrage de communion que le péché a détruit. Alors, qu'est-ce que Jésus annonce ici au travers d'un mariage ? Eh bien, il annonce la joie du royaume à venir, en fait. C'est ce qu'on voit dans la plupart du temps où on parle de mariage ou de vin. Eh bien, c'est les noces futures, en fait. Les noces de l'agneau. C'est aussi la fin de la honte. Hein, la fête était sur le point de devenir un désastre social. Eh bien, Jésus, par son intervention, va couvrir cette honte. Donc, c'est un petit peu aussi ce parallèle avec nous. C'est que Jésus, ici, il vient couvrir notre honte. Parce que dans la vie, eh bien, on manquera toujours de vin à un moment donné. Hein, on va manquer de santé. On va perdre un peu notre joie parce qu'il y a des gens qui vont venir la casser ou la briser. On va perdre des forces avec le temps, des relations. Donc il y a toujours notre vin va venir à manquer. Et donc Jésus, ici, nous montre qu'il peut encore transformer ce manque, restaurer la joie, renouveler notre espérance. Donc vous voyez, on peut le lier vraiment à notre situation. C'est que Jésus... Si tu manques de vin, quelque part, si tu manques dans la vie, il est là pour t'offrir ce que tu ne peux pas t'offrir, en fait. Et il nous donne ici un avant-goût d'un monde où les fêtes ne termineront plus. Les amis, je ne sais pas si vous imaginez ça, on aime ça, les mariages, mais on va le vivre éternellement. Éternellement. Alors, est-ce que ça va être tous les jours la teuf ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait qu'on en aura une belle quand on va rejoindre Jésus. Et je peux vous dire que la fête va être grandiose, ça fait 2000 ans qu'il la prépare. Quand l'organisateur de la fête est Jésus, les amis, oh là là, ça va être... on ne sera même pas ivre. C'est ça ce qui est fou, c'est qu'on pourra boire tout le vin qu'on veut sans être ivre. Waouh, c'est génial. Moi, j'ai même plus le droit de boire de vin aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai encore mon espérance. Elle est tellement décuplée par rapport à ça. Je me dis, waouh ! Est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on poursuit ou pas ? Ou est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête ? Ouais, on va s'arrêter là. Hein, je pense que je vous préserve. J'en avais sous la pédale, hein, j'ai encore un message là. Mais je vous préserve. Donc, on va juste se réjouir ensemble. Il y a encore le café ouvert. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, on va prier là, mais ce que je vous invite à faire, c'est de rester. On a des fauteuils super confortables dans notre église. Ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, profitons de ce bon café. On n'a que des bons produits chez nous. Hein, et on vise l'excellence. On a des bonnes machines, on fait des bons cappuccinos, on fait des bonnes boissons, on a des bons gâteaux. Il y a du panettone aujourd'hui, je crois savoir, il m'a semblé voir ça. En fait, on n'est pas encore au ciel, mais on veut cet avant-goût, vous voyez ? Et la communion fraternelle que nous on vit, c'est ce qu'on va vivre avec Jésus, mais il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus nos imperfections. Mais on peut y goûter, mes amis. L'Église, elle est faite pour ça. C'est la famille de Dieu. Et ce que j'aimerais, pendant ces fêtes, c'est que si les gens qui ne connaissent pas l'Église, vous la découvriez aussi sous cet aspect-là. Un aspect joyeux, festif, un avant-goût du ciel quelque part. Alors certes, on est encore sur cette terre, on va encore souffrir, on va encore manquer de vin, mais Dieu, dans sa grâce, dans sa surabondance, il nous donne bien au-delà de ce qu'on mérite et de ce dont on a besoin. On n'a pas besoin du panettone, on n'a même pas besoin de la machine à café, les amis. On a besoin d'eau, ça c'est suffisant. Mais il nous donne bien au-delà. Donc on va le remercier. Et puis qu'on réfléchisse à ces fêtes, quand on boira du vin, ouvrez que des bonnes bouteilles.